Nothing would be worse than declaring victory before the victory is won. That would be the greatest loss of all.
Rien ne serait plus dangereux que de déclarer la victoire avant que la victoire ne soit acquise. C'était Donald Trump. Et Raphaël, il parlait évidemment du coronavirus.
Mais est-ce que c'est le même Donald Trump qui parlait il y a une semaine?
Ben, il y a plusieurs Donald Trump, je pense. Hein?
Écoute, c'est la même voix, mais on pense pas que c'est la même personne. Est-ce que, d'abord et avant tout, est-ce que toi et Philippe, ou toi ou Philippe, avez-vous le point de presse du président hier en fin de journée?
Moi, je ne l'ai pas vu.
Je ne l'ai pas vu, mais j'ai tout lu sur le point de presse qui, semble-t-il, était assez spectaculaire.
Spectaculaire est le bon mot.
Est-ce que c'est dans ce point de presse-là qu'il s'est vanté de ses codes d'écoute, justement, liés à ces points de presse quotidiens?
Tu me devances, Pat, parce que oui, c'est dans ce point de presse-là qu'il s'en est vanté. Et non seulement il s'est vanté de ses codes d'écoute, il les a comparés à la fin de l'émission The Bachelor. Juste pour donner peut-être un petit élément de contexte, là, c'est un petit peu comme si François Legault, lors d'un de ses points de presse quotidiens avec le docteur, sa ministre de la Santé, etc., comparait les codes d'écoute des points de presse du gouvernement du Québec aux codes d'écoute d'Occupation Double. On est un petit peu là-dedans. Fait que c'était effectivement spectaculaire.
Mais c'est pas un petit peu, c'est exactement ça. C'est ça qui est le plus tragique. C'est exactement ça.
Oui, c'est ça. Et donc, on a eu ça d'un côté. Et de l'autre côté, on a eu un président qui a complètement changé son fusil d'épaule. T'sais, il avait déjà, disons, modulé son discours au fil de la semaine dernière. On avait commencé la semaine avec Donald Trump qui disait qu'il voulait rouvrir l'économie, rouvrir le pays pour la mi-avril, pour Pâques. Puis là, plus la semaine avançait, plus, disons, qu'il revenait peu à peu sur ces propos-là. Mais là, hier, c'était non seulement un recul, c'était un 180 degrés total, parce que non seulement Donald Trump est allé annoncer qu'on allait prolonger les recommandations du gouvernement fédéral américain en matière de confinement jusqu'au 30 avril, mais lorsqu'on lui a posé la question lors du point de presse, à savoir qu'est-ce qu'il souhaitait qu'il se passe après le 30 avril, au-delà du 30 avril, bien, le même président qui, quelques jours auparavant, voulait rouvrir le pays en l'espace d'à peine 2 semaines, n'osait pas s'engager à le rouvrir à partir du mois de mai. Fait que, tu sais, l'évolution, disons, encore pour reprendre le mot spectaculaire, là, est assez spectaculaire, merci.
Mais ce qui est tragique, Raphaël, bon, non seulement le président est un peu éparpillé, là, pour dire le moins, là, mais il y a aussi le fait, bon, au Canada, il y a une tradition de filet social qui n'est pas parfaite, mais qui existe, et c'est attendu des gouvernements. Là, je lis des histoires sur les gens aux États-Unis qui sont mis à pied. On va dire une affaire, le filet social, il ressemble en rien à celui qu'on retrouve au Canada puis en Europe.
Non, c'est ça. Puis, écoute,
là, ça va souffrir.
Ça souffre déjà. Je pense qu'on n'a pas à conjuguer au futur. La seule chose qu'on a à conjuguer au futur, c'est le degré de souffrance. Parce qu'évidemment, plus on continue comme ça, pire ça va être. Et ça, c'est malgré le plan d'aide économique sans précédent qui vient d'être passé par le Congrès. On s'en est parlé à la fin de la semaine dernière. Les chèques, le secrétaire au Trésor du président annonçait qu'ils allaient être mallés d'ici le début, dans le pire des cas, le milieu du mois d'avril. Mais tu sais, on parle pour une famille de 4, une famille typique américaine de 4 personnes, d'un chèque d'à peu près 3 000-3 500 $ d'aide fédérale. Encore une fois, c'est sans précédent. Pour le Trésor public américain, c'est absolument gargantuesque. Mais pour la famille américaine moyenne qui est mise à la porte, avec un filet social qui est moindre, ça risque de ne pas être grand-chose, là. Et les conséquences sociales de cette misère humaine-là, éventuellement, ça continue comme ça, et je ne veux pas faire dans l'alarmisme, mais elles vont se faire sentir. Et dans un contexte américain, encore une fois, où le paysage social n'est pas le même à la base, encore une fois, sans faire dans la catastrophe, ça pourrait être assez laid comme paysage. Là, on est, il faut le rappeler, au début de la crise. Je pense qu'on n'a pas encore une vision d'ensemble de tout ce qui peut se passer si les choses continuent sur la voie sur laquelle elles sont commencées.
OK, il y a les spécialistes américains là, qui évoquent un bilan possible de mort aux États-Unis, là. On évoque une fourchette là, qui va de 100 000 à 200 000 morts.
Oui, et la raison pour laquelle je veux qu'on s'en parle, c'est pour un mot, et le mot est le suivant. Prudence. Prudence lorsqu'il est question de ce genre de projection-là, parce que c'est lancé puis c'est partagé à toutes les sauces, partout dans les médias. Il faut faire attention. Premièrement, il faut réaliser que c'est une projection qui a été lancée notamment par le docteur Fauci hier, qui est issu de modèles statistiques. Ces modèles-là, comme à peu près n'importe quel modèle statistique qui ont de l'allure, opèrent sur la base de présomptions. Des présomptions qui peuvent être bonnes, qui peuvent être mauvaises et qui, dans tous les cas, sont tout au moins imparfaite, parce que ça présume, par exemple, de certaines politiques, certaines directives qui vont être émises par le gouvernement. Ça présume de certains comportements qui vont être adoptés ou non par la population. Mmh. Et ça se base sur des données, il faut toujours le rappeler, qui sont extrêmement imparfaites elles-mêmes, surtout lorsqu'on incorpore des données de l'international, parce qu'on peut mêler des données, par exemple, françaises à des données chinoises. Est-ce que vous allez vraiment me dire que les données chinoises sont aussi fiables que les données françaises? Et même si on compare des données d'une démocratie à une autre, mais la réalité, c'est qu'on a des façons des fois différentes de mesurer. Donc, par exemple, en France, on semble avoir sous-estimé peut-être le nombre de morts parce qu'on n'aurait pas recensé la totalité des morts liées à la COVID-19 qui sont morts à domicile plutôt qu'en milieu hospitalier. Autrement dit, il faut faire attention et gardons en tête que là, on parle de 100 000 à 200 000. Écoutez, il y a certains médias qui, aussi récemment que la semaine dernière, évoquaient la possibilité de 10 millions de morts aux États-Unis. À l'autre extrême, on avait Donald Trump qui, il y a à peine un mois, disait qu'on serait à zéro. Il y a beaucoup de jeux et il n'y a aucune certitude à l'heure actuelle. C'est ça que ça veut dire. Là.
Très bien, Raph. Merci. On se reparle demain.
À demain.
Je ne sais pas si tu as vu, Philippe, les photos du bateau hôpital qui est arrivé à New York. Là, des images spectaculaires. Oui.
Très impressionnant.
OK, parfait. Merci, Philippe, d'avoir été là pour les deux premières heures. On se retrouve dès demain. Après la pause, petit bulletin de nouvelles. Et après ça, on va parler avec Alexandre Taillefer. Évidemment, Alain Pronkine, le rôle de la religion dans la propagation, de certaines religions dans la propagation de la maladie. Et je vais vous parler du fameux métro de Saint-Alphonse-Rodriguez.